Et oui, la bonne nouvelle, c'est la vie éternelle. Mais beaucoup pensent qu'après avoir entendu la bonne nouvelle, on croit, on est baptisé dans les eaux qui coulent, c'est une fête et qu'on a la paix. Eh bien, nous allons voir dans cet enseignement que le baptême n'est autre que l'appel des guerriers à la guerre contre le mal. La paix ou l'épée ? Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la guerre. Oui, la cérémonie de baptême n'est que la mise en ordre de bataille. En fait, le Seigneur est clair. C'est qu'il le dit dans ce passage de Matthieu que nous venons de prendre connaissance. Le Seigneur ne nous a pas apporté la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la guerre. Mais la question est de savoir où se déroule cette guerre ou cette bataille, ce combat. Psaume 55, verset 22. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Cette guerre, cette bataille ou ce combat ne se déroule pas dehors, c'est-à-dire en dehors de l'homme. Mais la guerre se déroule dans le cœur de l'homme. Le mal ne vient pas de dehors, mais de l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Et le cœur ordonne à la bouche et au corps tout entier d'accomplir le commandement. Mais après le baptême par immersion dans les eaux qui coulent, le nouveau baptisé reçoit les armes et reçoit le commandement nouveau, c'est-à-dire la loi cadre. C'est la loi royale de Jésus-Christ, le médiateur souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Car la bonne nouvelle qui a été annoncée, qui a été entendu par celui qui est baptisé, vient du médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. La guerre ne se déroule pas dehors, mais dans le cœur et la bouche. Les deux endroits doivent être cohérents. L'un ne va pas sans l'autre. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre ?» afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La guerre, la bataille, le combat, c'est d'imposer au cœur et à la bouche de se soumettre à la loi cadre, qui est la loi royale donnée par Jésus-Christ. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous direz alors, où est cette guerre ? Bien-aimés frères et sœurs, le baptême est un appel à la guerre. Le baptême met les guerriers en ordre de bataille. Dans le déroulement de la cérémonie de baptême, on observe trois étapes. La première étape, c'est crucifixion du péché de celui qui a entendu la bonne nouvelle. Celui-ci a cru et a accepté de porter le nom de Jésus, corps du Christ. Il crucifie son ancien corps du péché sur la croix. Il meurt. Deuxième étape. On l'enterre. Il est mis en tombeau. Par cet acte d'ensevelissement dans les eaux qui coulent, pendant la cérémonie de baptême, l'homme du monde est mort et enterré. L'eau va le couler vers l'abîme. Et pour la troisième étape, la résurrection d'un corps dépouillé de tout péché. Un champ vierge qu'il faut cultiver, un édifice vide qu'il faut équiper, pour qu'il soit le champ et l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Maintenant, ce corps doit mener une guerre avec son cœur pour le soumettre à la volonté de Dieu. Hébreux 10, verset 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Le cœur doit abandonner son ancien commandement, qui est le commandement du monde, pour planter le nouveau commandement de la nouvelle alliance, c'est-à-dire la loi royale donnée par Jésus-Christ, le nouveau maître. Ce corps ressuscité, dépouillé de tout péché, reçoit alors le Christ, la parole de Dieu. Ce corps devient le corps du Christ en Jésus. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité et de puissance de Dieu pour le conduire. Jean 16, versets 13, 14 et 15. Quand le Consolateur sera venu, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. La guerre oppose qui et qui. Voyons Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans ce passage, nous voyons bien qu'il y a deux maisons. Le corps du Christ nouveau-né se trouve en permanence face à une guerre. Entre la maison de la vie, présentant l'amour, la vérité, la justice et la paix, conduit par Jésus-Christ, et la maison de la mort, elle représentant la haine, le mensonge, l'injustice et des querelles conduites par Satan le malin, l'usurpateur. Cette guerre dure longtemps. 2 Samuel 3, verset 1. La guerre durera longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Lui, David, devenait de plus en plus fort parce qu'il s'attachait au Seigneur. Pour nous, croyants chrétiens, nous gagnerons cette guerre si nous restons attachés à notre médiateur et souverain sacrificateur, Jésus-Christ. En observant la loi cadre, qui est pour nous un mur de la protection. Voyons ce que nous ordonne notre Père adoptif, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le !» Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et maintenant, voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, notre frère aîné, nous rappelle. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui sont ceux qui gagneront cette guerre ?» Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien entendu, ce sont les violents qui gagnent cette guerre et s'emparent du royaume des cieux. Mais les violents, violentent qui ? Est-ce de violenter son frère ? Son semblable ? Bien sûr que non. Nous connaissons les grands commandements de Dieu. Prenons Marc 12, versets 29, 30 et 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le croyant chrétien doit violenter son cœur pour l'obliger à se soumettre à la loi cadre, c'est-à-dire la loi royale de Jésus-Christ. Son cœur doit recevoir la semence de l'amour, de la vérité, de la justice et de la paix de Dieu par Jésus-Christ, et surtout la planter et la garder. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cette guerre pour le nouveau-né, c'est-à-dire le nouveau baptisé, consiste à cultiver en lui la vie de Jésus, corps du Christ. Exprimer la vie de Dieu qui est une vie de prière. La vie de prière, c'est la vie de Jésus, le corps du Christ. On ne parle pas de la prière verbale, mais corporelle. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et réécoutons Éphésiens 5, verset 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés, cela n'a rien à voir avec les traditions et rites que nous observons dans les différentes dénominations chrétiennes. C'est un problème personnel, disons que c'est un choix personnel. Car le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Ézéchiel 18, versets 4 à 9. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu de communauté. Il est le Créateur de tous les hommes. C'est celui qui pratique la loi royale et qui suit l'exemple de son Fils Jésus-Christ. Celui-là trouve faveur devant Dieu. Proverbe 15, versets 29 à 33. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Psaume 1, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ami en Christ, c'est en faisant la paix par soi-même que tu fais la paix avec ton frère. Cela s'appelle faire la paix avec Dieu. C'était la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu nous montrer comment faire la paix avec son Père. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Matthieu 25, versets 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Cette guerre, le croyant chrétien l'a héritée de Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec les cérémonies traditionnelles et les rites que les chefs des églises obligent aux croyants chrétiens de pratiquer. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné la destruction de ces églises de briques, faites par les mains des hommes, des humains. Acte 17, versets 24 à 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Jean chapitre 2, versets 19 et versets 21. Jésus leur répondit, « détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. La raison de cette ordonnance est la suivante. Prenons Jean 2, verset 16. « Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et dans Marc 11, verset 17, « Et il enseignait, disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, « mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le combat, la bataille et la guerre, c'est une affaire individuelle. Aujourd'hui, dans ces édifices, l'enseignement véritable de Jésus-Christ a été mis de côté. Les chefs de ces églises enseignent plutôt leur doctrine, qui détourne les pauvres enfants de Dieu, de la vérité de Dieu par Jésus-Christ. On peut dire que ces gourous ont pris la place de Dieu. Et pourtant, voyons Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Matthieu 15, verset 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Amis, frères et sœurs en Christ, combattez le vrai combat qui nous a été légué par Jésus-Christ, le combat du cœur. Le combat qui amène le cœur à l'obéissance à la parole de Dieu. Le combat qui soumet le cœur à l'autorité de Dieu par Jésus-Christ qui détient toute autorité. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette soumission nous recommande, bien sûr, amour du prochain. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et réécoutons ces passages de 1 Jean 4, verset 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Cette soumission nous recommande aussi la vérité dans nos propos. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et aussi cette soumission nous recommande d'être juste et pratiquer la justice. Psaume 12, versets 5 et 6. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Ésaïe 41, verset 29. Voici, Ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Matthieu 25, versets 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Mais les justes à la vie éternelle. Apocalypse 22, versets 11 à 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Cette soumission nous recommande le pardon, la bonté et la compassion. Éphésiens 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tout ceci est une guerre, une grande guerre, qu'il faut gagner en suivant avec attention et prudence son conducteur, le Saint-Esprit. Ésaïe 28, verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Voilà, et c'est une évidence, bien-aimé en Christ. Comment peux-tu aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment peux-tu faire la paix avec ton frère si toi-même tu ne vis pas la paix en toi-même? C'est cela la loi royale. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jacques 1, verset 22, verset 25 et verset 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La durée de cette guerre dépend du Seigneur lui-même. C'est lui qui détermine la fin. Toi, mène une bonne guerre sans relâche. Le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous dit dans Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La couronne, c'est la victoire qui nous a été léguée par Jésus-Christ. Alors, en tant qu'héritier de cette couronne, le croyant chrétien doit bien garder ce que le Seigneur lui a légué, sans la perdre. C'est une guerre. Ne la perdons pas. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 13, verset 15 et verset 17. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et là, amis, frères et sœurs en Christ, serviteurs de Jésus-Christ, par cet enseignement très parlant, ne faisons pas de la maison de notre Père, Père de Jésus-Christ, notre Père à tous, une maison de trafic. Mais allons par tout le monde et prêchons la bonne nouvelle de la vie éternelle en commençant par Jérusalem, c'est-à-dire en pratiquant soi-même la loi royale donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et reconnaissez que le roi des rois a tout accompli à la croix par son corps. Alors, amis, frères et sœurs en Christ, reconnaissez aussi que depuis la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse et ses ordonnances, et soyons ce que nous prêchons dans un corps appartenant à Christ en Jésus. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. N'oublions pas que nous portons le nom de Jésus par le baptême, par immersion dans les eaux qui coulent, et que nous ne sommes pas baptisés en Moïse. La vie éternelle apportée par notre Seigneur Jésus-Christ se trouve qu'en lui, en mettant sa loi en pratique. Cette loi est la loi royale. Alors, frères et sœurs, amis en Christ, combattons le vrai combat. Que le Seigneur veille sur vous.